Ariane Bonzon, bonjour.
Bonjour.
Vous citez dans l'introduction de votre ouvrage cette citation du photographe Sébastien Hossel-Gadeau. La seule manière de raconter une histoire consiste à revenir encore et encore sur les mêmes lieux. Qu'est-ce que ça dit de la manière dont vous avez travaillé pour cet ouvrage ?
Eh bien, ça donne un peu du temps long. Vous savez que le journalisme, c'est l'histoire immédiate. Et là, du fait que ça fait quand même 2 décennies que je travaille sur la Turquie, j'ai la chance d'avoir énormément d'archives, énormément de reportages. En fait, en faisant des rangements dans ma maison, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de vieux reportages que j'avais oubliés. Je les ai réécoutés et je me suis rendu compte que ce qui était dit là permettait de comprendre aujourd'hui. Donc c'est ça l'idée, c'est une mise en perspective sur un temps long qui est rarement accordé aux journalistes. Je suis revenue 10, 15, 20 ans en arrière, comme le conseil Salgado.
Alors vous avez d'ailleurs à chaque fois des éclairages différents, parfois vous revenez sur des événements, parfois sur des personnages. Alors la publication des fameuses caricatures du prophète en 2005, à ce moment-là, en Turquie, comment c'est perçu ?
C'est très intéressant cette histoire-là. Vous savez que la laïcité en Turquie est très particulière. C'est un contrôle de l'État sur la mosquée. Ce n'est pas une séparation de l'État et de la mosquée. Ce qui fait que l'État a distribué des prêches du vendredi en demandant aux imams de calmer un peu le jeu. Il y a eu quand même quelques manifestations, évidemment, pour protester contre ces caricatures. Mais il y a eu de la part de l'État la volonté que les imams dans les mosquées calment un peu le jeu. Il y a aussi cette idée que nous, les Turcs, on se maîtrise plus que les Arabes. Mais il y a quand même quelque chose, un ressentiment extrêmement fort qui s'est développé. Alors, les caricaturistes turcs de gauche ont repris quand même toutes ces caricatures. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'ils prenaient beaucoup plus de risques que nos caricaturistes, nous, puisque dans le code pénal turc, il y a un délit de blasphème. Si vous touchez aux choses religieuses, eh bien vous êtes passible de plusieurs mois, plusieurs années de prison et d'une amende. Le délit de blasphème existe. Il n'existe pas depuis le pouvoir islamo-conservateur, mais depuis bien avant. La petite différence, c'est qu'autrefois, il ne fallait pas toucher à Mohammed, enfin au prophète, et maintenant, avec la kippah, ça a été élargi à toutes les choses religieuses.
Et à la fin de ce chapitre où vous décrivez ce moment de l'histoire du pays, vous faites ce fameux retour sur « et aujourd'hui ».
Alors là, il y a eu un durcissement et puis il y a eu un durcissement aussi pour Erdogan lui-même. C'est-à-dire que autant avant, il y a eu des choses qui se sont écrites, des caricatures au début du mandat d'Erdogan, enfin au début de la kippah, autant dans les dernières années, c'est devenu beaucoup plus sévère et beaucoup plus répressif. C'est pas le prophète là, c'est Erdogan, mais il n'y a pas encore délit de blasphème vis-à-vis d'Erdogan, mais enfin on ne touche pas à Erdogan.
Beaucoup d'analystes ont un peu de mal à qualifier aujourd'hui le régime en Turquie. On a vu beaucoup circuler ce fameux mot valise de démocrature, contradiction de démocratie et de dictature. Vous faites une autre proposition.
Bon, démocrature, c'est un peu un jargon. Moi, j'ai souvent utilisé le mot démocrature. En plus, c'est une dictature au nom du peuple, si vous voulez. Bon, l'ouvrage, si vous voulez, donne d'abord la parole aux Turcs. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit eux qui racontent. Donc, je suis allée effectivement chercher ce que, à mon avis, le meilleur constitutionnaliste turc, qui est dans l'opposition d'ailleurs, et qui a eu à souffrir, et qui souffre toujours du régime Erdogan, donc il n'est pas soupçonné de complaisance. Je lui ai demandé comment vous qualifiez. Il l'appelle autocratie. Or, une autocratie, c'est la dictature d'un homme, hein, je veux dire, c'est pas d'autre chose. Mais il dit c'est autocratique, mais attention, il y a des tas de spécificités. Là où c'est intéressant, c'est que depuis juin 2018, Erdogan, ça y est, il a la constitution qu'il voulait. La plupart des hautes institutions, il les a à sa botte, il n'y a plus de responsabilité devant le Parlement. Donc, normalement, il devrait être assuré. Or, il ne l'est pas. Et c'est en ça aussi que c'est une heure de vérité pour lui, c'est-à-dire que maintenant qu'il a tout à sa main, est-ce qu'il va pouvoir passer à cette seconde étape qui est quand même effectivement de construire son influence, l'influence de la Turquie dans le monde, en Afrique, dans les Balkans, de créer une nouvelle génération, parce que c'est ça et c'est pour ça qu'il y a des éléments fascisants en Turquie aujourd'hui, c'est qu'il y a cette volonté de créer une nouvelle génération, une jeune génération, un homme nouveau un peu, et ça c'est le propre des régimes fascisants.
Une fameuse nouvelle génération pieuse, hein, c'est ça ?
Pieuse, sérieuse, travailleuse.
Merci Ariane Bonzon.
Merci.